Campagne. Bonjour, nous allons demeurer 3 semaines en région Bourgogne-Franche-Comté par l'intermédiaire de 3 départements, la Côte d'Or, la Haute-Saône et à partir d'aujourd'hui, la Nièvre avec 2 premiers interlocuteurs. D'abord, une présentation d'un lieu extraordinaire, le musée des nourrices et des enfants de l'assistance publique qui est plus un tiers-lieu qu'un banal musée. Présentation dans un court instant par Marion Blanc. Et puis, la Nièvre, terre d'innovation numérique avec l'association Pico qui produit le plus petit ordinateur à logiciel libre au monde, le moins gourmand et le moins cher. Si, si, c'est possible, c'est avec Émilien Cour, second invité.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Marion Blanc, bonjour.
Bonjour.
Marion, vous êtes responsable d'un musée qui a ouvert l'année dernière, le musée des nourrices et des enfants de l'assistance publique à Aligny en Morvan. Et là, vous touchez une grande histoire du Morvan qui a été une terre d'accueil de 300 000 enfants de l'assistance publique en 150 ans.
C'est ça, tout à fait. C'est une histoire particulière, très singulière et en même temps, quand on parle de cette histoire, on parle de la famille, on parle des liens de parenté, des liens de parentalité et donc on touche aussi à l'universel. C'est ce qu'on a essayé de mettre en scène dans le musée, c'est ce lien entre une histoire très spécifique, une histoire très sensible, et en même temps de le repositionner comme un fait de société.
Et comment s'est instaurée cette tradition d'accueil ?
Alors, c'est la tradition d'accueil dans le Morvan, c'est 200 ans d'histoire, à un moment où la société connaît de grandes disparités sociales et où la mise en nourrice est courante. Donc la mise en nourrice, on est vraiment sur des nourrices qui sont des nourrices allaitantes.
Oui, mais il y a aussi des enfants qui sont pour majoritairement des orphelins.
Il y a une partie de l'histoire qui va se passer à Paris et une partie de l'histoire qui va se passer dans le Morvan. En fait, le Morvan et Paris sont 2 territoires qui sont historiquement liés. On connaît le flottage du bois depuis le XVIe siècle. Oui. On dit que le Morvan chauffait Paris. Et puis, ces 2 territoires vont avoir l'habitude de fonctionner comme des vases communicants. Paris avec ses usines, avec ses ouvriers, une classe ouvrière qui est très pauvre, des femmes qui travaillent et qui vont être confrontées à une grande pauvreté, qui vont devoir abandonner leur enfant bien souvent. Donc dans les villes au XIXe siècle, on connaît un fort phénomène des abandons.
Ouais.
La campagne, et notamment le Morvan, va absorber ce phénomène et donc va accueillir au sein des familles morvandelles, les familles qu'on va appeler les familles nourricières et les nourrices sur place, vont accueillir ces enfants, qui sont des enfants recueillis par l'assistance publique. Vous l'avez dit, souvent des enfants qui vont être abandonnés, mais également des orphelins ou des enfants placés sur des critères sociaux ou moraux. Et puis l'autre pan de l'histoire qui se passe à Paris, c'est les nourrices qu'on appelle les nourrices sur lieu. Donc on se positionne du côté de la grande bourgeoisie qui, du fait de l'industrialisation là encore, va monter très vite en richesse et va avoir besoin de le montrer à la société entière et donc va emprunter les codes de vie d'une ancienne noblesse et s'entourer d'une cour de domestiques. Mmh. Une domestique de choix, c'est la nourrice. Donc,
ouais.
Quand on parle de la nourrice sur lieu, on est sur cette femme, cette jeune mère morvandelle qui est elle-même, qui a elle-même un petit et qui va laisser son petit dans le Morvan pour aller allaiter les petits héritiers des grandes familles.
Oui. Alors, le choix d'Aligny en Morvan a été conditionné par la présence pendant 12 ans et demi de ses premiers pas d'enfant orphelin de Jean Genet.
Tout à fait. Aligny est le village d'enfance de Jean Genet, qui est donc un enfant abandonné, qui est né à Paris et qui a été placé à ses 6 mois dans une famille d'artisans à Aligny en Morvan, jusqu'à ses 13 ans.
Oui. Le musée a une particularité. Alors, il y a évidemment un fond documentaire, mais vous avez aujourd'hui une scénographie très moderne. Vous travaillez aussi avec le consortium de Dijon. Vous confiez une partie des espaces à des artistes contemporains, avec également un espace d'accueil qui attire beaucoup, beaucoup de monde. Le résultat quand même assez étonnant, ce qui se passe chez vous. Vous êtes labellisé pôle d'excellence rurale. En même temps, vous avez donc le lieu d'exposition, un café-librairie, les chambres d'hôtes et le musée.
Tout à fait, on est sur un musée qui a été bâti comme une maison. En fait, on fait partie de l'écomusée du Morvan, qui est géré par le parc naturel régional du Morvan, et qui repose sur une muséographie participative et sur l'implication des habitants dans son projet scientifique et culturel. Donc, quand on parle des différentes maisons à thème de l'écomusée du Morvan, on parle vraiment de maisons. L'idée de ce musée, c'est aussi de pouvoir donner la parole, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir se rencontrer.
Ouais.
Et puis, vous l'avez dit, c'est très important pour nous aussi d'amener du contemporain, de continuer à réfléchir sur aujourd'hui, même si, bien sûr, le Morvan a totalement perdu sa spécificité de terre nourricière dans les années 70, quand la politique nationale globale a changé. On est quand même sur un lieu contemporain, mais un lieu d'histoire.
Oui. Et vous avez quelle fréquentation annuelle ?
L'année dernière, en 8 mois d'ouverture, on a vu 6000 visiteurs. C'est quelque chose qui est une belle fréquentation pour le Morvan. Et puis, surtout, on a des retours qui sont très positifs. On a beaucoup de personnes qui viennent et qui sont concernées directement par l'histoire. On fait plus que de vendre des tickets d'entrée. On est vraiment sur une médiation qui repose sur le relationnel.
Dans non, le lieu est remarquable, hein. Je vous conseille, chers amis qui écoutez Marion, d'aller à Ligny-en-Morvan, de profiter du parc naturel régional du Morvan par la même occasion, et des maisons à thème de l'écomusée. Le site, c'est museedesnourrices.fr. Il y a la page Facebook aussi, Musée des Nourrices, tout simplement. Merci Marion.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
C'est dans le journal du Centre que nous avons découvert le premier poulailler mobile importé en France, un concept allemand qui représente un bâtiment déplaçable et totalement autonome qui se tracte comme une caravane de place sans place dans la prairie. Le premier à utiliser ce poulailler est à Nolon dans la Nièvre. C'est un agriculteur éleveur a été séduit par ce poulailler qui présente beaucoup d'avantages. Les poules ont toujours de l'herbe, des insectes frais, la propagation des parasites est évitée, le dispositif assure le bien-être et l'autonomie des animaux. Il est entièrement automatisé, tout comme les abreuvoirs, les mangeoires, les portes qui se ferment et s'ouvrent au lever du jour ou à la tombée de la nuit. Se nettoie facilement, ne nécessite d'être déplacé en moyenne tous les 10 jours que de quelques dizaines de mètres pour offrir un nouvel espace aux braves poules. La production a pris le nom de l'œuf qui roule et elle est vendue sur place à la ferme de Marolles. Alors, défaut de site de la ferme, je vous invite à visionner un reportage réalisé par nos confrères de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Une adresse qui s'affiche à nos pages d'émission. Pour trouver le village d'Oulon, où se situe la ferme, il faut bien chercher sur la carte. 68 habitants, dit, c'est tout proche de Moussy. Mais Moussy abrite 108 habitants. Ça va mieux si je vous dis que nous sommes dans le canton de la Charité, sur Loire. Émilien Cour, bonjour.
Bonjour.
Émilien, cofondateur de Pico en 2015, avec Christophe et Alexis, vous êtes tous bénévoles. On me dit que vous avez mis quand même vos études d'infirmier de côté pour vous consacrer à votre projet Pico.
C'est exactement ça. J'étais étudiant infirmier, mais il se trouve que dans ma première vie, j'étais informaticien.
Oui.
Et j'ai été rattrapé par ma passion et j'ai effectivement mis entre parenthèses des études d'infirmier pour me consacrer à ce projet, oui.
Oui. Alors, je vais résumer puis on va détailler parce que c'est exceptionnel ce que vous faites. Vous réalisez des ordinateurs avec des logiciels libres, consommant très peu d'énergie, vendus pas cher et de la taille d'un paquet de cigarettes.
C'est ça. En fait, en gros, on a constaté qu'il existait pas mal de technologies disponibles, hein, créées par d'autres gens, qui, une fois mises en commun, permettaient de faire des ordinateurs voilà, qui seraient effectivement pas chers, qui seraient simples à utiliser, mais que la plupart des gens, en fait, n'avaient juste pas les compétences, les capacités de mettre en commun ces technologies. Et donc, c'est là qu'on intervient. On est là pour simplifier, en fait, l'accès à des technologies plus éthiques, et en particulier le logiciel libre.
Mais quand on a un ordinateur, le Pico One, par exemple, qui fait, je sais pas, en taille, il fait quoi, 6 cm sur 3?
Oui, c'est ça.
Il a quelle puissance?
Alors, ça reste très très modeste. Hein. C'est un produit qui est vendu 79€. Donc, évidemment, l'objectif de cet ordinateur-là, en fait, c'était de répondre à une demande sur dans les milieux où il y a une grosse contrainte économique et des besoins qui sont pourtant très très basiques. Donc, les besoins basiques, c'est aller sur Internet, c'est pouvoir regarder ses mails, faire du traitement de texte, du tableur, ce genre de choses. Voilà, on répond à ces besoins-là.
Mmh. Mais vous avez quand même des modèles supérieurs.
Alors après, voilà, nous, on a développé une gamme, forcément, parce qu'on avait aussi des demandes hein, sur des produits plus puissants. Mais en tout cas, on a voulu garder la même logique, c'est-à-dire que tous les ordinateurs qu'on produit sont pensés déjà pour être très compacts. Un ordinateur compact produit moins de déchets, hein, déjà de fait. Ils consomment moins d'énergie que des ordinateurs traditionnels. Ça aussi, on met un point d'honneur là-dessus. Et puis, là aussi, avec du logiciel libre.
Tous les ordinateurs sont équipés en Linux, avec des logiciels prêts à l'emploi. Et vous, vous mentionnez bien que l'intérêt aujourd'hui d'avoir ce type d'ordinateur, c'est qu'on sort des grands réseaux, des solutions Microsoft ou Apple. Et surtout, ces objets et ces liens que l'on peut faire à partir de ces ordinateurs sont complètement transparents. Il n'y a pas de, on n'ouvre pas des données personnelles que l'on va mettre en ligne sur des réseaux.
C'est un enjeu majeur aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on utilise tous maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup le numérique. Sans forcément prendre le temps de s'interroger, même d'un point de vue philosophique en fait, sur ce que ça implique, de confier ces données à des très grandes entreprises multinationales sans qu'on sache vraiment ce qu'elles en font. Mais on apporte une réponse à ce niveau-là en garantissant en fait à nos utilisateurs que nos logiciels sont transparents, que le code source, évidemment, est accessible à tout le monde, qu'ils peuvent le modifier, comme tout logiciel libre, ils peuvent le redistribuer s'ils veulent, et qu'on n'exploitera pas leurs données.
Oui, puis il y a des personnes qui ne sont pas averties, qui considèrent que le logiciel libre est compliqué à utiliser. Vous prouvez le contraire.
Notre démarche, c'est ça, c'est justement de le rendre accessible. On voit bien qu'un des freins au développement du logiciel libre, c'est ça. D'un côté, on a des grandes entreprises qui mettent énormément de moyens pour que les gens adoptent leurs solutions. Et de l'autre, il y a le logiciel libre avec une énorme communauté, mais qui est en fait une communauté d'utilisateurs avertis, et donc qui prive un petit peu le grand public de toutes ces technologies qui pourtant sont totalement fonctionnelles. Donc là, on intervient en disant, voyez, on peut faire les choses simples, vous pouvez acheter un ordinateur avec du logiciel libre comme vous achèteriez un ordinateur classique. Vous l'allumez, il fonctionne, il est prêt.
Oui. Alors vous prouvez qu'on peut innover, réaliser cette création au cœur de la Nièvre. Alors le seul souci, c'est que la carte mère vient de Grande-Bretagne et le boîtier de Chine.
Oui. Évidemment, en fait, on voulait vraiment faire du français.
Oui.
En totalité, clairement, c'est pas possible aujourd'hui. Toute la production de matériel maintenant est asiatique. On tend aujourd'hui de plus en plus à essayer de faire un maximum de choses en France. Par exemple, l'assemblage se fait chez nous, les impressions, on fait travailler des entreprises locales, les conditionnements outils, Et à terme, on aimerait bien pouvoir faire un ordinateur de A à Z en France.
Le site, c'est MyPico. Alors, Pico, c'est écrit P-I-Q-O. mypico.com, mypico.fr aussi, et vous avez une page Facebook Pico Foundation.
Et puis on invite vraiment les gens de bonne volonté à venir nous soutenir, à venir prendre contact avec nous. On sait que généralement, il y a de l'intérêt au niveau des collectivités locales aussi. Il y a pas mal de milieux comme ça qui s'intéressent au logiciel libre. Et notre objectif, c'est qu'on puisse développer ensemble l'accès à ces solutions.
Avec plaisir, vous nous tenez au courant de l'évolution parce que ça promet.
Oui, bien sûr.
Merci Émilien.
Merci à vous.
Une petite note avant de rejoindre le jeu des 1000 euros. Si vous habitez le Tarn-et-Garonne, Paris et la Sarthe, nous sommes intéressés par vos messages dans la Nièvre, à Guérigny, le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet.